Le podcast À cœur d'elle est l'initiative de la table de concertation de Laval en conditions féminines et est diffusée dans le cadre du mois d'activité féministe de l'automne 2021. On milite pour une ville de Laval féministe et inclusive, une discussion à la fois. Bonjour et merci d'être de retour parmi nous au podcast À cœur d'elle. Aujourd'hui, nous aurons une discussion sur la violence conjugale, les maisons d'hébergement et le besoin de concertation. Pour avoir cette discussion-là, je suis entourée de deux personnes très intéressantes et bien spéciales. Bonjour les filles!
Allô!
Bonjour!
Ça va bien?
Ouais.
Oui. Merci de nous recevoir.
Bien, merci de vous être déplacée, ça me fait vraiment plaisir. Puis, Mélanie, est-ce que tu souhaites commencer par un petit mot de présentation?
Bien sûr, je suis Mélanie Guénette, je travaille pour la table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de Laval. Ça fait maintenant presque sept ans que je suis à la table de concertation. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui, ça va être bien agréable.
Merci beaucoup. Bonjour, Georgia.
Bonjour. Alors, moi, c'est Georgia Dib. Je travaille à la Maison Lester, un hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. Ça fait 4 ans environ que je travaille là-bas. Et, tu sais, mon background d'études, j'ai un bac en psychologie, un certificat en criminologie. Et présentement, je termine mon bac en sexologie. Donc, ça me fait plaisir d'être ici.
Super. Merci beaucoup encore une fois d'être parmi nous. Est-ce que vous souhaitez enchaîner avec une petite description de la mission de vos organismes, puisqu'elles sont quand même différentes?
Tout à fait. Puis une table de concertation, ça peut être... on peut ne pas savoir c'est quoi exactement. La TCV-CASL pour les intimes, c'est un regroupement régional de Lavallois des principaux acteurs et actrices du milieu communautaire institutionnel, multidisciplinaire, qui travaille et en violence conjugale et en violence sexuelle. On favorise la concertation de l'ensemble de ces organisations-là. On offre de la formation, on s'assure qu'il y a un partage d'expertise qui se fait entre les principaux acteurs. Puis on a un volet aussi plus sensibilisation au niveau de la population au sujet de ces deux types de violences. La concertation, en fait, c'est important. C'est important et ça se doit d'être efficace entre les organismes communautaires et les organisations institutionnelles. Et c'est une des grandes forces qu'on a à Laval, c'est que ça regroupe vraiment les deux. Comme on est un petit milieu, bien, on est une quinzaine, 15-18 membres. Ça permet que tout le monde se connaisse, tout le monde travaille ensemble et se concerte sur les idées, les alignements, puis la vision qu'on veut là, pour contrer les deux problématiques que sont les violences sexuelles et la violence conjugale.
Super, merci beaucoup.
Ben, pour moi, dans le fond, moi je suis dans un hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. Je suis intervenante à l'interne. On a deux volets environ, tu sais, dans ce qu'on donne comme service directement aux victimes. Et on a le service interne qui est vraiment l'hébergement. Alors les femmes se déplacent avec leurs enfants pour vraiment s'héberger là-bas. On est un hébergement à court terme. Et ensuite, on a le volet externe où est-ce que c'est... j'ai 4 collègues qui vont rencontrer des femmes au quotidien. Et ces femmes-là, elles peuvent être encore avec leur conjoint, elles peuvent être déjà en séparation ou qu'ils vivent juste des conséquences de la violence. Et aussi, ils ont accès à ces services externes-là, sur rendez-vous, de venir consulter. Et j'aimerais, tu sais, nommer que toutes les femmes qui pensent vivre de la violence conjugale, vous avez une place dans les maisons d'hébergement. Et n'hésitez pas à appeler. On va vous écouter. On a notre écoute 24/7. Et aussi, c'est sûr, on est en collaboration avec les membres de Laval pour faire des sensibilisations. Je suis sur le comité avec Mélanie, sur plusieurs comités. Fait que c'est sûr, on a aussi le volet sensibilisation, accompagnement des victimes. On fait aussi des interventions de groupe. Alors, autant qu'on essaie d'avoir un impact sur la société, qu'on essaie aussi d'offrir le meilleur service pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales.
Bien, merci. Puis ce que je trouve vraiment intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a toi, Georgia, qui est comme très terrain, puis Mélanie qui est dans la concertation. Donc, c'est quand même deux mondes qui se rencontrent, mais qui finalement travaillent ensemble. Mm-hmm. Puis ça m'amène à vous demander, en fait, à me demander, si on veut, quels sont les défis auxquels font face votre organisme, dans le fond, que vous deux, vous œuvrez pour les femmes qui vivent la violence conjugale, mais quand même, avez-vous des défis différents, similaires?
Bien, au niveau de la concertation en soi, c'est un défi. Réussir à réunir toutes les organisations qui œuvrent dans ces deux problématiques-là, puis créer une cohésion entre ces organismes-là, ces acteurs-là, c'est pas nécessairement simple, mais il faut se souvenir toujours de notre objectif commun qu'on a tous, parce qu'il faut savoir qu'à la table, on a des gens qui travaillent avec les victimes, mais on a aussi des gens qui travaillent avec les auteurs de violences. Fait que juste, tu sais, tout créer une cohésion à travers tout ça, c'est pas nécessairement simple, mais on a tous le même objectif en bout de ligne, c'est de vouloir contrer les deux problématiques, là, ben, la violence en général d'ailleurs, là, mais notamment la violence sexuelle la violence conjugale. On est chanceux à Laval parce qu'on a une belle concertation, on a une belle dynamique, puis cette cohésion-là est là, puis elle est importante. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand je parle, tantôt, je ne l'ai peut-être pas nommé, là, mais on a deux volets à la table. On a un volet clinique, un volet stratégique. Mon volet clinique, c'est les intervenants qui viennent à la table. Fait qu'il y a ce lien-là, il est très, très fort entre les intervenants qui viennent au volet clinique puis qui viennent faire des rencontres. La cohésion est très importante. Puis c'est la même chose au volet stratégique, qui est plus récent, mais c'est des gens qui se connaissent depuis toujours, qui travaillent ensemble depuis très longtemps. Quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, on les arrime tout de suite, on les accueille tout de suite pour pouvoir bien travailler ensemble. Fait que oui, la concertation, c'est un défi. À Laval, ça va relativement bien. Je dirais que, tu sais, il y a eu plusieurs beaux exemples là, de concertation. Là. Il y a eu le projet COVID là, qui a été fait en un mois et demi où est-ce que on s'est mobilisé. Tu sais, quand la cohésion est là, quand c'est déjà existant, qu'on n'a pas à la créer, bien, quand est arrivée la deuxième vague de COVID, on a voulu sensibiliser les gens puis essayer de prévenir le plus possible de la violence conjugale. Rapidement, là, dans un mois et demi, il y avait des feuillets remis au salon de coiffure, les feuillets remis dans les pharmacies, la société de transport de Laval avait des affiches, les épiceries ont eu des affiches. On a rapidement fait ça avec le service de police qui est allé rencontrer les salons de coiffure, les pharmacies. Tu sais, ça s'est fait vite. La ville de Laval qui est embarquée avec nous, les maisons d'hébergement, évidemment, là, les maisons d'aide et d'hébergement de Laval, là, les trois, on a travaillé ensemble, le CAVAC aussi, fait que c'est... Mm-hmm. On n'a pas eu à travailler sur notre bonne entente, tu sais, elle était déjà là. Fait que ça s'est mobilisé très, très rapidement. Puis agir, moi, je vais te lancer la balle, la Georgia, sur ça, qui est un projet qui n'est pas de la table, mais dont la Maison Lester est coordonnateur là, avec l'Urgence sociale, qui est un beau bijou lavallois.
Oui, tu sais, dans le but d'offrir... c'est un réseau plus sécuritaire, un environnement plus sécuritaire pour les femmes. On a le projet Agir, qui est dans le fond la police de Laval, les procureurs, la DPJ, si c'est le cas. Nous, on se concerte ensemble pour vraiment créer un filet de sécurité pour les femmes dont le niveau de dangerosité est élevé. Et ce qui est bien, c'est que la femme participe, est au courant de tout ce qui se passe, dans le but qu'elle puisse contribuer aussi à sa protection, fait qu'elle n'est pas non plus mise de côté. Donc, pour nous, ça, c'est quelque chose aussi de très important. Puis je suis complètement d'accord avec Mélanie dans le sens que, tu sais, à chaque fois que j'allais à l'épicerie, je regardais les pancartes, puis je suis comme ça, c'est nous!
On était fiers, hein?
C'est ça, on était comme fiers, on regardait partout, puis à un moment donné, on veut décrocher nous aussi, fait qu'on est comme, OK, ben là, on regarde les pancartes partout. Mais je pense que c'était important, tu sais, dans le temps de COVID, de faire ça. Mais pour revenir un peu plus comme aux défis spécifiques à l'hébergement, dans le fond, je ne sais pas si c'est... J'ai une expression qui vient en tête, l'œuf ou la poule, tu sais, mm-hmm. L'expression. Fait que je vais le nommer de cette façon-là. Dans le fond, nous, c'est sûr qu'il manque de place. Puis qu'est-ce qui fait qu'il manque de place en hébergement, plus spécifiquement, et aussi à l'externe, mais tu sais, pour les femmes qui veulent vraiment venir en hébergement, c'est que c'est difficile de trouver du logement après. Tu sais, on est comme en crise de logement. C'est difficile pour les femmes de se relocaliser. Fait que nous, on les permet de prendre leur temps aussi pour qu'elles puissent reprendre pouvoir sur leur vie. Fait que ça fait que le roulement est un peu plus lent. Fait que ça, c'est un défi qu'on a. On veut offrir le service au plus de femmes possible. On veut en même temps qu'ils se relocalisent en toute sécurité avec leur famille. Donc, c'est là où est-ce que ça crée un petit bouchon. Fait que c'est comme un petit cercle vicieux, mais je pense qu'en concertation puis en travaillant avec toutes nos collègues on essaie, tu sais, les deuxièmes étapes et tout ça, on essaie le plus possible que ces femmes puissent avoir un logement en toute sécurité. Si je regarde un autre défi aussi, c'est le personnel. C'est le personnel des intervenantes et tout ça. On essaie le plus possible d'avoir des bonnes conditions de travail. Moi, je pense qu'on en a quand même avec le financement qu'on a eu récemment. Je trouve que ça va offrir aux intervenantes des meilleures conditions de travail et aussi ça va permettre une rétention du personnel. Mais ça, c'était quand même un défi. T'sais, parce qu'il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs milieux de travail qui ont des besoins d'intervenants, des intervenantes spécialisées. Donc, ça fait en sorte que la rétention de personnel était quand même difficile. Mais je pense qu'on est en voie, t'sais, de trouver des solutions aussi. Fait que pour les défis, ça serait... Il y en a d'autres, là, mais ça serait environ ça,
ben, c'est
les
correct.
Grandes lignes.
Les défis principaux qui viennent en tête, c'est parfait comme ça. Puis, c'est un peu un changement de sujet, mais en même temps, vous m'avez parlé de la COVID. Mm-hmm. Je pense que, ben, c'est ça, tout le monde sait qu'est-ce que la COVID-19.
Mm-hmm.
Puis, durant la COVID, on a quand même parlé beaucoup de violences conjugales dans les médias parce qu'on observe quelque chose qui peut être appelé une épidémie de violence. Mm-hmm. Puis, j'aimerais avoir votre avis, en fait, sur peut-être les causes.
Bien, nous, les maisons d'hébergement, on peut avoir quelques hypothèses, une analyse de la situation, mais je veux que ce soit clair que je pense pas qu'il y a eu déjà des études qui valident à 100% c'est quoi notre analyse, dans le fond. Mais ce qu'on peut conclure au niveau du terrain, de notre expérience terrain, c'est que les femmes, avec le confinement, ou même, dans leur milieu de travail, ils ont dû faire du télétravail. Les femmes sont restées à la maison. Les hommes, c'était plus facile pour eux d'exercer leur contrôle sur les femmes. Fait que ça fait en sorte que tout le monde n'avait pas accès... T'sais, ces femmes-là n'avaient pas accès à l'extérieur, n'avaient pas accès à leur réseau de famille, n'avaient pas accès aux toutes ces pancartes de sensibilisation. Ils ne pouvaient même pas faire des appels téléphoniques pour avoir de l'aide parce que monsieur était là. Donc, ça fait en sorte que le contrôle et la violence est vraiment... c'était plus facile pour l'homme de l'exercer. Ensuite, à fur et à mesure que la pandémie... on revenait à une vie un peu plus normale, je dirais, où on essayait de plus s'adapter. Ces femmes-là ont essayé de retrouver leur famille. C'est de retrouver leur famille, leur travail, leurs amis. Il y en a qui ont trouvé un nouveau travail. Ce qui fait que c'est des facteurs qui augmentent la violence, qui font en sorte qu'il y a du changement dans le couple, et monsieur a perdu le contrôle et veut ravoir le contrôle. Une chose qui était si facile en confinement ne l'est plus, et dans le but de reprendre le contrôle sur la situation, la violence augmente. Mm-hmm. Puis malheureusement, tu sais, ces femmes-là qui ont essayé de chercher de l'aide, tu sais, en 2021, aussi en 2020, finalement, ça a terminé en féminicide. Mais c'est un peu ça l'analyse, t'sais, le fait que monsieur essaie de ravoir le contrôle et fait recours à plus de violence.
Mm-hmm. Ouais. La situation escalade, puis ça dégénère au point où plusieurs femmes se sont faites assassiner. Là.
Exactement, donc, exactement.
Ben merci pour cette analyse-là. C'est intéressant, même si c'est pas, t'sais, comme tu disais, une analyse universitaire, c'est quand même quelque chose qui a été observé sur le terrain. Mm-hmm. Là, donc, merci beaucoup pour cette analyse-là. Puis, un peu dans le même ordre d'idée, est-ce que la réalité sur le terrain a comme nécessité d'être restructurée durant la COVID? Est-ce que c'est quelque chose qui a dû être fait? En plus là, de l'exemple dont tu parlais tantôt du projet COVID, qui est ça qui est au final plutôt positif?
Oui, mais oui, il y a eu des impacts au niveau de l'hébergement, mais au niveau des femmes, beaucoup. Tu sais, au début de la COVID, là, la réalité a changé vite dans tous les organismes. Les mesures sanitaires se sont installées rapidement. C'était difficile aussi de pouvoir les installer. Puis, si vous vous souvenez, il y a quoi, 17-18 mois à peu près, il fallait prendre 2 semaines de confinement. C'était important avant d'inclure d'autres groupes et tout. Fait que là, dans les maisons d'aide et d'hébergement, c'était pas nécessairement simple. Donc, les trois maisons de Laval se sont concertées pour ouvrir un site alternatif avec le 6 de Laval. Puis ont mobilisé et la table en conditions féminines et, de Laval et la TCVCASL, la table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de Laval.
Répétez-le 5 fois à la maison.
C'est un exercice de diction. On a été concertés aussi avec eux là, pour donner un coup de main là, pour le site alternatif parce qu'il y avait quand même les maisons à faire rouler, mm-hmm. plus un nouveau site. Les femmes ont été hébergées là pendant les 2 semaines. Là, au début, là, les 10 premières semaines, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le site alternatif. Et les 10 premières semaines, les femmes étaient hébergées 2 semaines de temps avant de pouvoir être incluses.
Avec les autres.
Dans mm-hmm. les autres maisons. Il y a des femmes qui ont super bien réagi. Pour vrai, moi, j'ai vu des femmes faire ouf, ça me fait du bien. Je me ressens un peu plus sur moi. J'ai l'impression de passer du temps pour moi toute seule, puis ça me fait du bien. Mais pour d'autres, puis je dirais que. Pour les femmes qui arrivaient avec des enfants, surtout, ça a été difficile, là. 2 semaines dans un et demi, mais disons, là, 2 semaines dans un et demi, où est-ce qu'ils pouvaient sortir 1 ou 2 fois par jour pour aller à l'extérieur, c'est pas beaucoup. Puis ils pouvaient pas sortir en même temps que d'autres non plus. Ils étaient vraiment chacune dans leur un et demi, là. Avec les contacts humains, il y en a eu très peu. Puis les maisons ont tout fait, là. Je veux dire, les intervenants venaient sur les lieux, ils appelaient à tous les jours. Il y avait un bon suivi qui était fait, mais puis on avait des volontaires aussi qui étaient sur le site avec nous, puis qui ont... On allait porter les cabarets de nourriture, mais on se donnait la peine de jaser avec les femmes, on se mettait à 2 mètres, puis on leur parlait un peu, savoir « t'es-tu correct, ça va-tu? » Mais quand même, tu sais, pour plusieurs, ça a été difficile. Puis ça a été... jusqu'à temps qu'on puisse avoir des tests rapidement, là, ça a été vraiment difficile. Georgia, aujourd'hui, je pense que... Bien, en tout cas, dans les maisons, vous avez mis d'autres mesures qui ont pu finalement être mises en place puis que ce site-là est moins ou voire pas utilisé, mais quand même.
Oui. Bien, c'est ça. Au début, c'était quelque chose de gérer le site alternatif, les femmes, on essaie de les rassurer qu'une intervenante sera là, est à l'écoute. Aussi, ce qu'on avait peur qu'il arrive, c'est que les femmes décident de retourner parce que, dans le fond, être tout seul avec tes pensées dans une chambre, ça peut être difficile. Puis comme tu dis, il y avait des femmes où est-ce que ça s'est super bien passé, puis c'était juste comme une petite transition avant d'arriver en maison d'hébergement. C'est sûr aussi, nous, en maison d'hébergement, on a dû demander aux femmes de porter les masques. On a créé comme une chambre quarantaine où est-ce qu'il y a une toilette reliée à cette chambre-là. Mais encore une fois, c'est très petit. Donc, ça fait en sorte que les femmes doivent rester 2 semaines avec leurs enfants. On a dû acheter des iPads, des choses pour qu'ils se divertissent dans la chambre, les cabarets aussi, la nourriture. Puis on a intégré à notre équipe une femme à tout faire géniale, tu sais, qui nous a soutenus, qui nous a aidés. Elle est vraiment, vraiment cool, là, vraiment. Puis, tu sais, on aimerait la garder pour toujours, là, mais... c'était un bel ajout, tu sais, finalement, à l'équipe. Puis ça nous a aidés à pouvoir offrir un milieu quand même chaleureux, même si tout le monde avait un peu peur. Puis le port du masque à l'intérieur de la maison d'hébergement, je pense que ça a rassuré les femmes. Parce qu'elles aussi, au début de la pandémie, elles ne savaient pas à quoi s'attendre avec leurs enfants. Elles ne voulaient pas l'attraper, que leurs enfants l'attrapent. Fait que je pense que le fait qu'il y avait le site alternatif, qu'il y avait aussi les mesures prises en maison d'hébergement, ça fait en sorte que ça rassurait les femmes. Notre priorité en tant que maison d'hébergement, c'est offrir un milieu sécuritaire, oui, de leur conjoint, mais aussi d'appliquer les mesures sanitaires dans le but qu'elles soient aussi en sécurité, comme physiquement, de la COVID. Même si on ne peut pas tout prévenir, on a fait tout en sorte pour qu'elles puissent avoir un endroit confortable.
Ben oui. J'ajouterais un petit truc parce que ce site alternatif-là, on parle de concertation, puis c'est... un exemple très, très fort de concertation parce que, bon, autant la TCLCLF que la TCVCASL, on a été impliqués dans le projet, mais nos membres aussi. Tu sais, le comité de coordination, c'était les coordonnatrices des maisons et moi, la coordination de la TCVCASL, Marie-Ève à la TCLCF, puis quelqu'un du CIS. Mais au-delà de ça, on est allé chercher dans nos membres des volontaires qui venaient passer les journées au site alternatif, qui étaient payés par leur organisme, puis qui les libéraient pour aller passer des journées-là avec eux. Ça prend une concertation, ça prend un respect du travail de chacun immense pour faire ça. Puis pour, un, les intervenantes qui décident de venir, et deux, c'était toutes des intervenantes, évidemment, là, mais et deux, de libérer puis de payer ces intervenants-là là, pour être là. Puis on a eu des bénévoles à travers ça aussi. Fait que ça a été, c'est un super exemple de concertation, ce site alternatif-là.
Oui, c'est clair. Une belle réussite à Laval, puis tout ça dans une perspective où... aider les femmes là, qui vivaient une situation tout problématique qu'il fallait aider. Donc, c'est tant mieux que vous le souligniez aujourd'hui. Là, c'est super important.
Ouais.
Puis, en fait, là, encore une fois, je vais un petit peu changer de sujet parce que là, on parlait d'un projet qui a super bien marché. Donc, évidemment, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a un projet qui restera à faire, une ressource qui manque, quelque chose qui vous vient en tête, en fait, peut-être un peu comme une demande là, qu'on lance dans l'univers aujourd'hui?
Bien, moi, j'ai lancé dans l'univers, ça fait plusieurs années que je lance dans l'univers, un organisme qui pourrait aider les animaux de compagnie des femmes. Parce que certaines, elles ne veulent pas quitter parce que, tu sais, elles ne veulent pas laisser leur chat, leur chien à la maison, surtout avec un conjoint violent, elles ne font pas confiance en leur capacité de prendre soin des animaux. Et ça serait bien d'avoir un organisme qui pourrait aider, mais j'ai su qu'ils commencent à mettre en place... il y a peut-être deux organismes maintenant qui commencent à venir à Montréal. Je ne me rappelle plus trop du nom. Je pense que ça s'appelle Pro Anima. Je ne suis pas sûre. Mais c'est vraiment pour mettre ça en place, pour aider ces femmes-là qu'elles quittent et qu'elles ne laissent pas leurs animaux de compagnie dans l'atmosphère.
Sans surveillance.
Oui, c'est ça.
À chaque fois que j'entends ça, je me mets à la place de quelqu'un qui doit quitter, puis je me dis, je ne sais pas si je serais capable de laisser, tu sais, on s'attache à ces petites bêtes-là, je veux pas.
Mais oui, puis c'est rassurant, c'est sécuritaire, c'est comme, déjà, tu es déraciné, tu sors de ta maison, l'environnement, les amis, alentour, les enfants, ils doivent changer d'école peut-être, tout ça. En plus de ne pas avoir les animaux de compagnie, ça fait mal.
Là. Ouais, c'est comme trop.
Ouais, exact.
Puis pour les enfants? Pour les parents? Pour les enfants, là, ça...
Exactement,
ça
exactement.
Doit être quelque chose.
Fait que ça serait bien, tu sais, de non seulement retrouver un logement sécuritaire, mais aussi de revoir ton animal de compagnie quand tu sors de l'hébergement.
Ouais.
Tu sais, puis tu sais que quelqu'un a vraiment bien pris soin, c'est un organisme de confiance, tu sais, c'est... Je pense que c'est vraiment important, puis je pense qu'il y a des projets qui s'en viennent, fait que pour moi, c'est rassurant.
Excellent.
Belle nouvelle.
Ben oui, super.
Moi, je dirais, ce qui serait très important, puis c'est en travail, là, mais c'est la Maison Marie-Marguerite. La Maison Marie-Marguerite à Laval se veut une maison d'hébergement pour femmes en difficulté et leurs enfants. Évidemment, femmes en difficulté, oui, ça comprend violence conjugale, mais il y a aussi exploitation sexuelle, l'immigration, itinérance, bon... On n'en a pas à Laval. On est la troisième plus grande ville au Québec et on n'a pas de maison comme ça pour recevoir ces femmes-là. Qui sont pas... en violence conjugale, oui, ça s'adresse dans vos maisons, mais... pour les autres problématiques, tu sais, c'est pas de l'autre sens. Ou les multi-problématiques aussi, des fois. Et que ce serait vraiment important qu'on ait cette ressource-là là, à Laval. Là.
Oui, donc, voilà, c'est lancé dans l'univers.
C'est lancé dans l'univers. Je dirais que j'essaie de le catapulter dans l'univers.
Je comprends.
Moi, je pense que c'est un projet qui ça achève.
Ça achève?
Moi, je pense que ça achève, oui.
On est sur le bord, là. Ouvrir une porte.
Ben, exactement. Il faut quand même se rappeler que quand on va écouter ce podcast-là, ce sera dans quelques semaines. Donc, on se souhaite à nos nous-mêmes du futur que peut-être lorsqu'on va écouter ce podcast-là, ce sera...
déjà exaucé.
Exact. On sera exaucé. j'ai aussi envie de vous entendre sur le féminisme, évidemment, parce que la TCLCF est un organisme féministe. Est-ce que la perspective féministe est importante dans votre travail pour accompagner les femmes dans leur cheminement ou est-ce que la perspective féministe est importante lorsqu'on fait de la concertation? J'aimerais bien vous entendre à ce sujet-là.
Ben c'est sûr, parce que pour nous, l'approche féministe est au cœur des maisons d'hébergement pour femmes. L'approche féministe, c'est vraiment basé sur la reprise de pouvoir des femmes, le fait de leur redonner l'autonomie, le fait aussi de les déresponsabiliser de la violence, de leur permettre de faire des choix libres et éclairés. Fait que c'est ça la base. Et les intervenantes, nous, on a tellement une approche qui est transparente. On travaille en alliance avec ces femmes-là. Et c'est avec toute bienveillance qu'on fait notre travail. Et je pense que ça transparaît au niveau de la reprise de pouvoir de ces femmes-là. C'est que chaque jour, on les permet d'avoir l'information. On les permet de voir c'est quoi leur option. Pour qu'ensuite, qu'elles prennent les choix qui sont les meilleurs pour elles. Et moi, en étant sur le terrain, travaillant chaque jour avec cette perspective, et aussi en travaillant en alliance avec ces femmes-là, je vois le positif. Je vois que le fait que je les rassure, que ce n'est pas de leur faute, qu'on vit dans une société où est-ce qu'il y a de l'oppression faite aux femmes, où est-ce qu'il y a des injustices, des inégalités. Et ça leur fait ouvrir les yeux que finalement, tu sais, ce qu'elles ont vécu, c'est un enjeu social, que c'est un enjeu où est-ce que, tu sais, toutes les femmes ont déjà vécu une forme de violence, tu sais, que ce soit de la violence conjugale, mais aussi harcèlement en milieu de travail. Tu sais, c'est rare qu'on ne voit pas des femmes qui ont vécu, tu sais, que ce soit... c'est comme des oppressions, tu sais, faites aux femmes. Fait que dans le but d'utiliser cette approche féministe et de leur redonner ce pouvoir-là et ça leur permet de faire des prises de conscience, là, leur choix, tu sais, elles ont la liberté puis leurs choix sont libres et éclairés. Et je les vois finalement sortir de l'hébergement ou de l'externe ou quoi que ce soit, tu sais, en disant, tu sais, je suis une personne autonome, je suis capable de faire les choix qui sont bien pour moi et ma famille, et qu'elles sont capables seules.
Ben oui, ça permet de briser les tabous aussi, j'imagine.
Oui, exactement. Parce que le fait qu'on parle de socialisation, qu'on parle des inégalités, qu'on parle du fait que, tu sais, faut pas avoir honte de vivre de la violence conjugale, je pense qu'elles réalisent comme, oh mon Dieu, tu sais,
c'est pas leur faute.
C'est pas ma faute. Puis aussi, j'ai les capacités. J'ai les capacités qu'autrement, dans mon milieu avec ce conjoint ou tu sais, ce partenaire violent, j'avais pas cette confiance en moi que j'avais cette capacité. Puis dès qu'elles arrivent en maison d'hébergement ou qu'elles consultent à l'externe ou qu'elles ont recours au service, elles réalisent « Oh, wow! » T'sais, je suis beaucoup plus forte, je suis capable, tu sais. Et c'est ça pour moi qui est le plus beau dans mon travail et c'est ça qui est le plus beau quand on utilise cette approche, cette perspective féministe, c'est qu'on redonne le pouvoir aux femmes puis on dit non. On dit non à la violence faite aux femmes, tu sais.
J'adore ça, c'est positif parce que plus tôt, là, avant l'enregistrement, tu m'avais déjà dit que parfois, quand tu annonces que tu travailles dans le domaine de la violence conjugale, c'est comme « Oh mon Dieu, tu dois être déprimée et tout », mais il y a du beau partout, il suffit de le chercher.
Oui, exactement. T'sais, moi, je leur dis « Je vois pas pourquoi c'est si déprimant », puis ils me disent « Tu entends des histoires ». Je dis « Oui, j'entends des histoires, mais aussi je vois le résultat à la fin et je vois le sourire sur ces femmes, sur ces enfants qui se sentent en paix. » T'sais, parce que ce qu'elles veulent, c'est la paix. Mm-hmm. Ce qu'elles veulent, c'est être bien. Puis le fait que j'offre cet environnement pour qu'elles puissent avoir cette liberté, c'est pas moi qui offre la liberté, mais j'offre l'environnement propice pour qu'elles puissent être en liberté, faire leurs choix. Ben moi, je suis comme « wow ». T'sais, si j'ai contribué, que ce soit un grain de sel, à l'épanouissement de cette femme-là, ben pour moi, ma job, c'est la meilleure job. Fait que c'est ça ce que je dis aux personnes. Parfois, elles me regardent avec un air bizarre, mais parfois...
Ouais, c'est je partage ça.
C'est ça.
Puis, de ton côté, Mélanie, j'aimerais aussi t'entendre sur la nécessité ou non de la perspective féministe.
Bien, comme j'expliquais tantôt, la concertation à Laval inclut des gens du communautaire et des gens de l'institutionnel. Et on a des membres qui travaillent auprès des victimes et des membres qui travaillent auprès des auteurs. Les valeurs que Georgia a énumérées, soyez sans crainte, elles sont partagées par l'ensemble du groupe, c'est sûr. Par contre, la table de concertation se doit d'avoir une mission qui est beaucoup plus large, qui va regrouper l'ensemble des missions et des visions de tous ses membres. Ce qui fait que, tu sais, ça permet de couvrir ensemble un plus grand secteur d'intervention, puis la limite du mandat d'une organisation et l'intersection du prochain, là, de l'autre... excusez.
Ah, c'est pas grave.
Excusez-moi. Et là, je gesticule un peu trop. Est à l'intersection du mandat de l'autre, tu sais, fait que c'est important. Fait qu'on on met pas d'étiquette, vraiment. On met plus, tu sais, de se garder une mission large, une vision large, pour pouvoir inclure l'ensemble de ses membres. Parce que si on se restreint, on perdrait des gens, puis on perdrait notre force de concertation lavalloise. C'est pas ça qu'on veut.
Ben non, mais moi, je trouve ça intéressant, là, vos deux perspectives, parce que c'est dans un sens, on l'a dit plus tôt, là, tout le monde travaille dans le même sens,
mm-hmm.
mais forcément à différentes considérations.
Mm-hmm.
Donc, enfin, ça fait une discussion qui est diversifiée, si on veut.
Exactement.
Oui, puis moi, tu sais, je suis sur le comité clinique, je vois mes partenaires des autres organismes et je vois la bienveillance et je vois l'implication et je vois... Tu sais, fait que pour moi, le service qu'on offre, victimes. On a aussi des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. On a des personnes... tu sais, c'est pas juste non plus... nos partenaires, je parle, c'est pas juste des personnes qui sont auprès des victimes. Mm. C'est aussi des personnes qui sont auprès des agresseurs. Et dans le but de contrer, tu sais, de dire non à la violence conjugale, aux agressions sexuelles, tu sais, c'est important d'avoir ces partenaires. Et pour moi, tant qu'on est dans la bienveillance, tant qu'on est dans la reprise de pouvoir des victimes, c'est ça qui est important. C'est qu'on forme un filet, un réseau pour soutenir. Ça prend un village pour aider une personne. Tu sais, fait que nous, on est un village. Tu sais, moi, c'est la perspective féministe parce que je suis une femme qui aide les victimes femmes et qui lutte aussi pour les droits des femmes. Tu sais, pour la défense des droits des femmes, c'est ça l'approche que j'utilise, c'est ça l'approche qui fonctionne, tu sais, auprès des victimes de violences conjugales. Mais je pense que c'est autant important dans toutes les intersections, tu sais, de santé mentale, d'orientation sexuelle, quoi que ce soit. Tu sais, on parle d'approche intersectionnelle. C'est important aussi qu'il y ait d'autres partenaires qui nous amènent des points forts, tu sais, des techniques, des outils. On partage ça.
Mm-hmm.
Quand on est en concertation, on partage les outils, puis on le met à notre couleur, oui, mais... c'est quand même un partage. C'est des compétences que tout le monde a.
C'est important. Si on s'identifiait très, très précis comme table de concertation avec une approche précise, bien, on pourrait perdre des joueurs puis on n'aurait pas accès à ces mm-hmm. échanges-là qui sont si importants. Fait que moi, je pense qu'à la table de concertation, il faut garder vraiment un regard large puis une mission très large puis, où chacun peut se réaliser à travers ça puis partager à travers ça.
Puis je pense aussi que, tu sais, tous nos partenaires sont ouverts.
Oui.
Parce que moi, quand je parle de, tu sais, dans le comité de l'approche féministe, ils vont me dire oui. Mm-hmm. Tu sais, ils vont me dire oui, c'est bon ça, nanana, tant que c'est fait avec bienveillance, en collaboration avec les victimes. Tu sais, quand je pense, par exemple, je veux pas nommer des organismes, mais quand je pense à toutes mes collègues, toutes mes partenaires, quand on parle de la perspective féministe, ils sont comme oui, tu sais, c'est des valeurs. Comment on peut dire non à des valeurs qui sont de base?
C'est des valeurs humaines, là.
C'est ça, exactement. Puis je pense aussi qu'on prend en considération le fait que, tu sais, c'est les victimes, c'est des femmes. Tu sais, c'est majoritairement des femmes.
Mm-hmm.
Puis on le prend en considération. Et on essaie de travailler avec ça sans excluer non plus, comme tu dis, sans excluer d'autres, tu sais, les autres problématiques, les autres enjeux, les autres, tu sais, c'est c'est normal, tu sais, d'avoir une certaine collaboration, un ajout, complémentarité, je dirais.
Merci beaucoup pour ces belles interventions-là. C'est vraiment intéressant. Puis on la voit, la complémentarité, là, ne serait-ce comment vous en parlez. C'est génial. En terminant, est-ce qu'il y a un mythe dont vous souhaiteriez là, prendre l'opportunité de défaire, en fait, de dire un mot, un mythe que vous croyez qui devrait être défait au sujet de la violence conjugale?
Bien, il y a beaucoup de mythes au niveau de la violence conjugale. Ce que je pourrais dire, c'est que en étant une femme qui vient aussi d'une culture, tu sais, je suis libanaise, fait que c'est une culture très ancrée, avec beaucoup de valeurs très spécifiques, je dirais. J'aimerais dire aux femmes qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir vécu de la violence conjugale. Puis il n'y a pas de trajet parfait quand ça vient à nos vies en tant que femmes. Ça n'existe pas. Fait que d'en parler, d'aller chercher de l'aide, n'ayez pas honte, tu sais, de le faire, parce que vous n'êtes pas les seuls. On va vous comprendre. Comme je vais le répéter, les femmes ont vu des oppressions, puis on va comprendre ces oppressions-là dont vous vivez. On va comprendre la dynamique de violence conjugale. Et donc, c'est ça que j'essaie tout le temps d'amener aux femmes, que c'est correct que tu en aies vécu, tu sais. C'est pas correct que ça existe, mais que t'as vécu cet environnement malsain, tu sais, cette violence. Il faut pas avoir honte, puis il faut chercher de l'aide. Puis l'autre chose qui est très importante, c'est que la violence conjugale, souvent qu'on donne des justifications à l'agresseur, que c'est un problème de consommation, que c'est un problème de colère, que c'est un problème de santé mentale. Mais ce n'est pas un problème de consommation. Ce n'est pas un problème de colère. Ce n'est pas un problème de santé mentale. C'est vraiment un problème de violence, de se permettre d'être violent auprès des femmes. C'est ce que ces hommes-là se donnent le droit, tu sais, d'être violent auprès de ces femmes. Puis c'est ça le message que je veux envoyer, que tout ça, c'est que des justifications. Que, tu sais, la violence conjugale, c'est un problème dans la société, puis c'est fait envers les femmes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller à la souche, tu sais, du problème, et pas penser qu'une thérapie de boisson ou d'alcool, tu sais, comme, ou de consommation, ça va régler les choses.
C'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter?
Moi, j'aurais envie de parler aux proches. Mm-hmm. Aux proches des victimes de violences conjugales. Je veux juste dire, tu sais, c'est important de garder le contact. Puis souvent, l'auteur de violence va tenter d'isoler la victime, là. Mais essayer de garder le contact avec cette personne-là, c'est important. C'était relevé, d'ailleurs, là, que quand il y a un contact qui se crée, qui perdure dans le temps de façon significative, ça devient un facteur important de prise de décision de sortir de la violence. Puis des fois, ça peut prendre 2-3, puis jusqu'à combien? C'est quoi la... C'est beaucoup, hein? Je me souviens plus. En tout cas, ça peut prendre plusieurs essais, mais le contact va faire vraiment une différence là, à long terme. Mais vous pouvez aussi avoir besoin d'aide dans tout ça, mm-hmm. avoir besoin de soutien. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi dire, c'est quoi la bonne chose. Les maisons d'aide d'hébergement, ils peuvent tous vous aider. Georges le disait tantôt, là, ils ont des lignes 24/7, ils peuvent vous aider à bien accompagner là, votre proche là, dans cette situation-là. Puis pour vous aussi, parce que vous ventiler, ça peut être important, parce que vous, ça peut vous affecter d'avoir un proche. Tu sais, quand on parle de notre sœur, de notre cousine, de notre voisine qu'on aime beaucoup, d'une bonne amie, de notre mère, c'est clair que qui vit une situation comme ça, ça peut nous affecter comme individus. Puis là, je vous dirais, le CAVAC, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, dont le CAVAC, là, on en a un à Laval, ils viennent en aide aux témoins. Aux proches des victimes. Fait que vous pouvez aller demander puis aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Vous avez, tu sais, il n'y a pas besoin d'avoir de plainte, il n'y a pas besoin de rien de tout ça. Vous prenez le téléphone, vous les appelez, puis on vous donne un rendez-vous avec une intervenante qui peut vous soutenir. Fait que je pense que Ouais, je vais, oui, mm-hmm. j'ai le goût de penser à ces personnes-là qui accompagnent, puis que des fois, ils se sentent démunis à travers ça. Ça peut être important.
Bien, oui, puis en appelant aussi, que ce soit le CAVAC ou les maisons d'hébergement, on peut outiller ces personnes, mm-hmm. on peut, si c'est juste pour ventiler aussi, on va vous écouter. Ça prend un village pour aider une personne. Oui. Puis parfois, ça nous affecte parce que c'est des personnes qu'on aime. Mais tu sais, l'important, comme tu dis, Mélanie, c'est d'aller chercher ces outils-là pour soutenir cette personne-là. Tu sais, c'est quelque chose d'important, tu sais, que cette aide-là aussi est offerte à ces gens, à les personnes qui sont témoins ou qui connaissent quelqu'un qui vit ça, oui.
Donc, on discute des ressources, puis bien qu'elles peuvent être imparfaites ou connaître des défis, les ressources sont là. Donc, ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Bien, merci beaucoup pour vos interventions. C'était une belle discussion. Je me sens chanceuse d'avoir eu deux invités là, aussi compétentes pour en parler. En terminant, est-ce que vous souhaitez peut-être donner les coordonnées si jamais quelqu'un ou quelqu'une cherche de l'aide?
Pour nous, c'est la Maison Lester. Donc, c'est le 450-963-6161. Sinon, si vous avez besoin d'hébergement et qu'il n'y a pas de place chez nous, il y a SOS Violence Conjugale, que c'est un service 24/7 que vous pouvez appeler en tout temps aussi.
Pour la table de concertation, j'ai envie de vous référer à notre site web, là, c'est briserlesilence.com, briser avec un Z. Vous allez avoir l'ensemble là, des services qui sont offerts à Laval sur notre site Internet.
Bien, parfait. Merci beaucoup de vous être déplacé.
Ça a été un plaisir de
vous avec toi.
À la prochaine.
Vous venez d'écouter le podcast À cœur d'aile, à l'animation Justine Bouvier, à la composition musicale Marika Galea, au graphisme Véronique Lee, enregistré au studio Espace Numérique avec le soutien financier de la Ville de Laval et du secrétariat à la condition féminine dans le cadre de l'entente régionale en égalité.